le premier enjeu, c'était d'arriver à développer, enfin à créer, à monter un modèle durable, donc à la fois sur le côté environnemental, sur le côté social et sur le côté économique.
Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI.
Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
Dirigeants, nous vous donnons la parole.
Bonjour et bienvenue sur IRD Vox. Nous rencontrons aujourd'hui Vincent de Guilbon, dirigeant fondateur du groupe Citélive, service de livraison du dernier kilomètre, respectueux de l'environnement, via une flotte de véhicules zéro émission de CO2. Bonjour Lucie, bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors Vincent, qu'est-ce qui t'a conduit à créer Citélive en 2016, après 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en génie industriel et supply chain ? Dans le secteur du transport et de la logistique, raconte-nous ton parcours.
Alors effectivement, j'ai une formation d'ingénieur en génie industriel et logistique, mais j'ai fait tout mon début de carrière en transport routier de marchandises, et notamment chez un transporteur frigorifique qui s'appelle Steph, dans lequel j'ai découvert le monde du transport, mais surtout les difficultés de livraison, les difficultés d'accès pour les chauffeurs en centre-ville, avec notamment des véhicules poids lourds. Et donc voilà, ça c'était vraiment mon expérience professionnelle. J'ai eu aussi l'occasion de travailler à différents postes, exploitation, contrôle de gestion. Et à titre personnel, j'avais envie d'entreprendre. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Et face à ces problématiques de livraison dernier kilomètre, les problématiques environnementales aussi auxquelles on fait face aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver des solutions pour répondre à ces enjeux du dernier kilomètre au niveau de la décarbonation, mais aussi de tous les services et du confort de livraison, entre guillemets, qu'on peut apporter aux chauffeurs et aux clients final. Donc c'est dans ce cadre-là qu'en 2016, j'ai décidé de créer Citélive et de proposer un modèle alternatif à ce qui se fait traditionnellement sur la livraison du dernier kilomètre, donc via ce modèle Citélive.
Tu as cité Steph. Tu es aussi passé par Decathlon, sur un poste de logistique.
Ouais.
Tu peux en parler deux mots. Decathlon est une pépinière d'entrepreneurs. Enfin, franchement, il y en a beaucoup.
Alors, moi, ce que j'ai adoré. Alors, Decathlon, c'était un court passage. En fait, ouais. Ça a été un passage pour moi en logistique. Ça m'a rappelé que j'étais fait pour le transport et pas trop pour la logistique.
Ah, oui.
Mais par contre, effectivement, chez Decathlon, j'ai beaucoup apprécié le modèle de management qui est fait là-bas. Implication des salariés, responsabilisation des salariés. Le projet aussi, l'innovation. Donc, j'ai récupéré, entre guillemets, beaucoup de valeurs et de modes de fonctionnement que j'essaye de dupliquer aujourd'hui chez moi. Et c'est des valeurs que je retrouvais aussi, qui étaient aussi assez présentes chez Steph.
Donc, ah, okay.
En termes aussi d'actionnariat salarié, tout ce genre de choses.
Et tu as démarré ici ? T'es de la région
Alors initialement non, j'ai plutôt grandi en Savoie et je suis arrivé je suis arrivé dans le Nord en 2013. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis ici. Ouais. Mais je me plais bien. Donc,
tu as quitté les montagnes pour les terrines.
Bon, exactement, voilà. Exactement. Ouais.
Très bien. Donc le métier de Citélive, c'est la livraison du dernier kilomètre, livraison décarbonée. En 2016, on parlait déjà beaucoup de décarboné ou pas ? Ou c'était vraiment un précurseur ?
Si, ça démarrait déjà. Alors, moins qu'aujourd'hui, mais on sait que le transport pollue, et notamment ce dernier segment du transport, donc la livraison dernier kilomètre. C'était
on
déjà
en
un enjeu.
Déjà. Ouais. Ah d'accord, ok. Très bien. Évidemment, encore plus maintenant. Quelques chiffres peut-être pour illustrer ton activité ?
Alors, donc Citélive, aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs. On a un site en propre, deux sites en activité et deux sites donc en concession en activité, deux sites qui vont ouvrir.
Ça fait donc au global 6 sites.
Au global, on est à 5 sites.
5 sites.
On fait en chiffre d'affaires 1,8 million là sur 2023 sur l'activité de Lille.
Moi, j'avais en tête. 1700 livraisons par jour.
Voilà, 1700 livraisons jour, on fait une cinquantaine de palettes, donc j'y reviendrai après, mais dans le modèle, on traite des flux colis jusqu'à la palette complète. Voilà, ça représente environ 4000 colis jour sur l'activité, en tout cas, de Lille.
On parle de Lille.
On parle de Lille, ouais, ouais, ouais. Et au niveau de l'ensemble du réseau, alors ça évolue vite puisque.
Mais tu ouvres.
Voilà. Ouais. Au niveau, sur Rouen, on a fait x2 en termes de volumétrie par rapport à ce qui était prévu en 2023. Donc en termes de chiffre d'affaires, on a fait 300 000 euros de chiffres. Voilà, j'ai pas le détail de tous les chiffres, ouais. Mais en tout cas, il y a eu un démarrage beaucoup plus important que prévu.
Donc Lille, Rouen.
Lyon, qui sont en activité.
Lyon.
Et deux concessions, là, qu'on ouvre prochainement, qui sont Reims et Paris.
D'accord, ok. À Paris aussi, d'accord. Ouais. Okay. Paris nord, sud, ouest.
Ça sera plutôt la rive droite dans un premier temps. Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer les différents métiers de Citéliv et quelles en sont les valeurs, la raison d'être?
Ouais. Donc, la raison d'être, comme je l'expliquais, c'est arriver à concilier l'environnement, donc la décarbonation, avec les attentes du consommateur qui se fait livrer des colis, qu'il soit pro ou particulier. Les valeurs qu'on a autour, je parlerai après des valeurs, je vais plutôt d'abord parler du métier. Donc, pour répondre à cette mission là donc nous on est spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre, et on l'a fait d'une manière alternative à ce qui se fait traditionnellement, à savoir qu'on propose des solutions de mutualisation de flux de messagerie. Donc on va aller capter et aller prendre en charge des flux de marchandises, donc du colis à la palette complète, chez différents donneurs d'ordre qu'on va mutualiser, on va réorganiser les tournées de distribution dans une zone, dans des zones bien spécifiques urbaines, on est vraiment sur les centres urbains, les agglomérations, et on le fait au moyen de véhicules zéro ou faible émission, qui vont du vélo cargo jusqu'au fourgon électrique, GNV, j'en parle plus trop parce qu'on se concentre vraiment sur le véhicule électrique qui est le plus pertinent pour notre activité et qui, en tout cas, n'émet pas de CO2. Voilà. On a également, couplé à ça, on garde une activité de tournée dédiée où on va mettre à disposition un véhicule, un vélo cargo ou un fourgon, chez un client pour vraiment une prestation donnée. Et on rajoute aussi à notre dispositif du matériel frigorifique pour prendre en charge des produits frais, donc avec chambre froide et caisse isotherme ou véhicule frigo pour gérer les flux, notamment alimentaires.
Respectant bien la chaîne du froid.
En respectant la chaîne du froid.
Donc, tu mutualises, hein, et après tu pars pour livrer ces véhicules propres. Hein. Ça veut dire aussi donc, un logiciel pour utiliser les tournées. Enfin, c'est aussi pas mal, d'intelligence à avoir. Quoi.
Voilà. Donc, effectivement, quand je parle de comment répondre aux attentes du consommateur, le consommateur, qu'il soit pro ou particulier, attend une traçabilité de livraison, attend des informations sur quand va être livré son colis, par qui, avoir la possibilité de reprogrammer éventuellement sa livraison. Donc on a un partenariat avec Proxypeak, enfin avec Tousfactor, qui a développé l'application Proxypeak, qui est un vrai TMS, donc Transport Management System, qui nous aide à organiser les flux, optimiser les tournées, mais en plus apporte toute la brique d'expérience de livraison pour le destinataire.
D'accord.
Donc, comme je le disais, l'envoi de SMS, livraison sur créneau horaire, tracking en temps réel sur smartphone, sur une cartographiée, possibilité de reprogrammation, envoi d'un avis au destinataire pour avoir vraiment cette notion de service client.
Donc, du coup, le client, je me mets à la place du client, hein, j'attends une livraison, je ne sais pas trop quoi, peu importe. Hein. Il n'attend pas forcément toute une journée, maintenant il y a des créneaux plus...
Voilà, on a des créneaux restreints de 2-3 heures sur lesquels on annonce l'arrivée du livreur avec la marchandise du client. Voilà.
Donc 5 sites et puis d'autres qui vont arriver. Hein. Alors quels ont été tes principaux défis auxquels tu as été confronté lors de cette croissance rapide?
Alors, en fait, j'aime bien dire que j'ai vécu j'ai eu un peu deux étapes dans ce projet d'entrepreneuriat. Le premier enjeu, c'était d'arriver à développer, à créer, à monter un modèle durable, donc à la fois sur le côté environnemental, sur le côté social et sur le côté économique. Sachant que dans nos métiers, pour ceux qui connaissent un peu le monde du transport et notamment les derniers kilomètres, on sait que c'est pas un métier qui est facile. Ouais. Il y a beaucoup de d'échecs, de casses. Donc comment trouver, enfin c'était mon premier enjeu, c'est arriver à trouver un modèle qui soit pérenne, donc sur les trois composantes que j'ai citées.
Ça c'est Lille.
C'est Lille. Donc ça c'était le premier enjeu.
Tu as fait la preuve économique, sociale
Et environnemental. Voilà. Donc effectivement, le modèle, il tient la route. Et moi, à titre personnel, c'était aussi mon premier enjeu. C'était mon premier projet entrepreneurial, parce que j'ai toujours été salarié avant. Donc voilà, cette première étape, elle a été validée et globalement réussie.
Ça a duré combien de temps, cette première étape?
Je dirais 4 ans. Quatre à cinq ans.
Bâtir les fondations. Quoi.
Ouais. Et donc il y a maintenant 2-3 ans, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais, comment dupliquer, puisque l'impact au niveau de l'agglomération lilloise, il est très limité, notamment sur la décarbonation. Donc le vrai impact serait d'arriver à dupliquer ce modèle, et on se rend compte qu'il y a une vraie demande de nos clients. J'ai pas trop parlé de nos clients, mais on a très rapidement les transporteurs, express et messagerie, c'est 50% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Les e-commerçants de plus en plus qui passent en direct par nous, les commerçants locaux, la GMS et les grossistes distributeurs aussi qui doivent livrer leurs clients professionnels. Donc nous on travaille avec tout ce panel de clients là et eux ont des besoins, pas que à Lille évidemment, ils ont besoin sur Paris sur tout le territoire. Mais on a un enjeu un vrai enjeu au niveau des villes, au niveau des agglomérations qui sont plus compliquées à livrer, plus congestionnées, etc. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai voulu enclencher la deuxième étape du projet, qui est de développer et dupliquer le modèle. Et on a choisi le modèle de concession. Donc c'est un des enjeux, c'est comment arriver à dupliquer le modèle de manière rentable, efficace, rapide, en conservant nos valeurs. Et voilà, c'est pour ça qu'on est principalement sur un modèle de concession équivalent à la franchise. Ouais. L'autre défi que je peux citer.
Encore faut-il donc que ton concessionnaire ou ton franchisé respecte ses valeurs aussi. Quoi.
Tout à fait.
Donc il y a un choix de franchisé, de concessionnaire.
Ouais. Là, alors il y a un choix et il y a aussi le suivi. S'assurer que
Il faut l'aider
et derrière il faut s'assurer que le cahier des charges est bien respecté, que les valeurs sont respectées. Donc effectivement, ça c'est notre travail de s'assurer de tout ça.
D'accord. Et tu vas donc au salon de la franchise, te présenter
On a prévu l'année prochaine d'avoir un stand, parce que jusqu'à maintenant on est plutôt allé en visiteur, mais l'année prochaine on va vraiment présenter le modèle, puisque la cible c'est 100 sites dans 2033, donc c'est assez ambitieux en termes de développement.
100 sites.
C'est 15 sites là d'ici 3 ans. On a vraiment une évolution. Donc le premier enjeu, c'était de créer ce modèle durable et durable dans tous les sens du terme. Et deuxième enjeu, c'est comment dupliquer le modèle de manière rapide, efficace, en respectant les valeurs, avec des gros enjeux. Donc comment se structurer, ça c'est l'enjeu du moment, comment se structurer, se financer pour atteindre ses objectifs et cette ambition.
Et répondre aux attentes des franchisés qui attendent un service de ta
part. Exactement. Et sachant que de mon point de vue et de notre point de vue, on change aussi de modèle, puisque aujourd'hui on était plutôt dans un modèle très opérationnel où on délivre, et là on est plutôt dans un modèle d'accompagnement, d'apport de services à des franchisés qui vont réaliser les opérations.
Quand tu dis 130, c'est ça, en 2030?
100, ouais. C'est
la cible. France et au-delà.
Alors, on a ciblé France, mais on a notamment une piste en Belgique. Le besoin, il est au niveau mondial. Forcément, c'est plus facile de démarrer dans un milieu francophone qu'on connaît.
Tout à fait.
Mais on ne s'interdit pas. On a eu des touches, on a eu des demandes aux États-Unis. Bon, c'est un peu trop tôt, mais
tout est possible.
On va déjà commencer par
le
plus simple.
Alors justement, une question qui va résonner avec le modèle de franchise dont tu viens de parler, mais notre précédente invitée, c'était Reda Midia, qui est dirigeant d'Xprochem, qui est une société basée à Eurasanté, qui propose aux sociétés pharmaceutiques des services de conception et de production de protéines thérapeutiques. Mmh. Alors sa question, c'était: comment envisages-tu le scale-up de ton entreprise, notamment pour son expansion au niveau national, dont on vient de parler? Est-ce que tu vas recruter des personnes pour gérer ou mettre à disposition l'outil Citélive façon Uber auprès de particuliers en modèle mixte?
Alors effectivement, sur la première question, je pense que j'ai plutôt répondu. Le petit rajout, c'est qu'on ne s'interdit pas d'avoir des sites aussi en propre. Hein, donc on a cette solution-là en parallèle. Le recrutement des personnes, donc là clairement, on est vraiment dans le cœur du sujet, puisque encore une fois, la première partie, on était plutôt dans un modèle artisanal en construction. Là, on est sur un modèle vraiment industriel qui doit fonctionner à grande échelle, d'où un besoin de se structurer, et on est exactement là-dedans, en process, en outils et en personne.
D'ailleurs, je me permets, en process, j'imagine que les franchisés doivent recruter leurs propres salariés. Il y aura un appui de ton côté?
On est tout à fait... on a un gros enjeu social chez nous, puisque la masse salariale représente déjà... c'est le gros morceau de notre activité. On est sur l'activité de service. Le service est fait par des personnes, donc il faut être très très vigilant sur... sur les personnes qu'on recrute et les livreurs qui vont faire les opérations. Donc nous, on apporte un service d'aide au recrutement à nos concessionnaires, avec la sélection de profils et la mise à disposition aux concessionnaires de candidats qualifiés. Et on est en train d'automatiser toute cette partie-là, puisqu'on a l'expérience, donc on est outillé pour avoir une réelle efficacité sur le pré-recrutement des profils qu'on maîtrise bien, puisqu'on en recrute depuis 8 ans, on est un peu cerné.
Là, c'est une vraie attente et c'est un vrai plus que tu l'apportes, en fait. Là.
Voilà, donc, de toute façon, c'est toujours pareil. Le principe, c'est que les services qu'on apporte, ils soient plus performants et moins coûteux pour tout le monde. Ils sont faits par nous et ils sont mieux maîtrisés et c'est plus efficace. Ils sont centralisés à un endroit plutôt que chacun essuie les plates dans son coin comme nous on l'a fait les 5 premières années.
Donc, c'est clair.
Et pour répondre façon Uber, j'en ai un peu parlé, j'ai un peu répondu, on n'est pas dans ce modèle-là. Moi je reste convaincu, et c'était un enjeu initial, c'est d'arriver, je l'ai dit, à faire un modèle qui socialement soit performant. Donc ça c'est le premier point. Même si je critique pas le modèle Uber qui est pertinent sur certains aspects, par contre, on a aussi besoin d'un service qui soit performant. Et le service aujourd'hui, malgré les outils et les process qu'on peut mettre en place, ça reste un livreur qui va assurer ce service-là. Et avoir des salariés en propre qu'on a formés, qu'on a recrutés, qui correspondent à des valeurs, qui représentent une marque, une enseigne. On a un meilleur service à la clé que du tout venant, entre guillemets, qui ne sont pas forcément formés. Donc nous, on n'a pas choisi le modèle Uber. Après, il y a aussi des sujets réglementaires où aujourd'hui, on est sur une profession réglementée. Il faut avoir une capacité de transport, il faut être inscrit au registre des transporteurs. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi.
Vous êtes en Uber chez toi?
J'ai pas les chiffres précis. On a quand même du turnover. On reste sur des métiers qui sont durs, qui sont pas forcément hyper bien payés. Donc on a un petit peu de turnover. Après, on essaye vraiment de travailler sur ce sujet-là pour capter les meilleurs profils, essayer de les garder, travailler sur les conditions de travail, les équipements mis à disposition, le suivi des salariés, leur implication dans les décisions d'entreprise. Sachant que sur le salaire, on a une marge de manœuvre qui reste limitée du fait du secteur dans lequel on opère.
On évolue, tout à fait. Bon, on va passer maintenant aux questions plus personnelles pour Vincent. Vincent, est-ce que tu as connu un coup de bol particulier dans ta vie professionnelle?
J'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, j'ai eu un petit coup de pouce financier pour mettre en place le projet de ma famille. Donc ça, je considère que c'est quand même un coup de bol parce que tout le monde ne l'a pas. Alors même si on est sur des projets qui ne demandent pas énormément de financement, mais quand on entreprend, malheureusement encore, c'est bien d'avoir un petit peu d'apport. Et le deuxième, je considère que c'est un coup de bol, mais j'ai trouvé que sur un projet entrepreneurial, une des choses les plus compliquées, c'est d'aligner toutes les planètes à peu près au même moment, les financements, les clients, le matériel, et que toutes les étapes arrivent que tout se goupille, sachant que le banquier, il va attendre le client pour te filer les sous, mais le client, il attend que tu aies les sous et le matériel. À chaque fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Et à chaque fois, tout s'est à peu près goupillé, l'entrepôt, les véhicules, tout dispositif, les financements, donc je considère qu'il y a de la chance. Après, il n'y a pas que de la chance, évidemment, mais globalement...
Il y a eu un bon alignement des planètes.
Il y a eu un bon alignement des planètes sur ces...
Tant mieux, ça arrive.
Est-ce que tu peux partager avec nous un échec qui t'a permis au final de progresser?
Oui. Alors, j'en ai un qui me vient en tête. En fait, j'ai... Alors, en 2018 ou 2019, on a eu une première expérience de franchise, entre guillemets, un peu, pas subie, mais enfin, si au final elle a été subie, on avait été contacté par quelqu'un sur Amiens qui voulait mettre en place une activité. Nous, on n'était pas du tout encore prêt au modèle d'expansion, mais je me suis dit, tiens, il y a une opportunité à saisir, peut-être qu'on peut accompagner cette personne-là. Bon, en fait, ça s'est pas très bien passé parce que justement, on n'était pas du tout prêt, on n'a pas apporté des... On n'avait pas les outils pérennes. Voilà. Mais ce projet, donc ça a été un échec. Hein, mais ce projet-là, en fait, m'a quand même conforté dans ce modèle de franchise et m'a permis de le travailler pour avoir quelque chose qui tienne la route aujourd'hui. Donc,
Et maintenant, donc, as-tu une expérience humaine marquante dans ta vie d'entrepreneur ?
Ouais, j'ai eu récemment alors l'expérience, ça sera un peu difficile, mais je pense que ça fait aussi partie de la vie d'entrepreneur et surtout quand on est sur une croissance. J'ai plusieurs personnes qui ont démarré l'entreprise avec moi ou qui ont été là dans les débuts, que j'ai voulu faire évoluer. Oui. Mais je me suis aperçu que quand l'entreprise passait certaines étapes, on attend autre chose. Et en fait, il y a des personnes qu'on veut, on veut faire grandir, mais on ne pourra pas forcément... Enfin, voilà. En fait, on voulait les emmener au-delà de ce qu'elles peuvent faire ou même de ce qu'elles souhaitent faire. Et j'ai dû me séparer de certaines personnes, parfois de manière un peu douloureuse, mais voilà, que j'ai voulu, entre guillemets, faire monter trop vite, aller trop loin, alors qu'en fait, il me fallait d'autres profils. Et alors, c'était pourtant... Voilà, c'était plutôt bienveillant de ma part à la base. Et en fait, je me considère que je les ai un peu, peut-être, voilà, je les ai un peu conduits vers un peu un échec ou un mur. Et ça a été assez difficile. Et voilà. Donc mais je pense que ça fait, enfin, c'est un sujet où il faut, pour en avoir parlé avec d'autres entrepreneurs, qui est assez récurrent dans des boîtes en croissance et auquel on pense bien faire. Et en fait, voilà, faut être vigilant là-dessus. Donc,
Ta valeur la plus précieuse pour toi dans la vie? Quelle est-elle ?
Alors j'en ai plusieurs qui me viennent en tête.
Plusieurs, enfin, vas-y.
Ouais, non, mais alors je vais quand même en citer deux. La persévérance, parce que je suis assez convaincu que, voilà, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, en persévérant, on arrive globalement voilà, quand on a un objectif en tête, si on se donne les moyens, on y arrive. Et la deuxième valeur, c'est aussi cette... Enfin, je reviens sur cette bienveillance. Voilà, je considère que à partir du moment où on fait les choses de manière saine, même si on peut se tromper, on fait des erreurs, globalement, on va retomber sur nos pattes et il n'y aura pas de grosses déceptions majeures. Voilà, donc ça, c'est, enfin, après, c'est vraiment très, très personnel. Je suis en train de me dire que c'est pas forcément les valeurs, enfin, c'est pas forcément les valeurs qu'on a mis dans l'entreprise, mais
peu importe. Elle te tient à cœur, en tout cas.
Ce sont tes valeurs à toi.
Persévérance et bienveillance. Voilà, très bien.
Est-ce que tu as des passions dans la vie en dehors de Cité-Livre ?
Bah oui, quand même, heureusement, un petit peu, même si Cité-Livre prend forcément beaucoup de temps. Alors, j'ai une fille depuis peu et une femme depuis 12 ans. Donc, voilà, aujourd'hui, alors, c'est pas forcément une passion, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont importantes dans ma vie, forcément. Non, après, je fais pas mal de sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport et j'en fais encore beaucoup.
Réponds un peu là. Qu'est-ce que
je fais ? Alors, je cours, je fais du vélo, je fais du kitesurf et du ski et de l'escalade.
Donc là, c'est le côté persévérance. Là.
Ouais, sûrement. Alors, j'ai tendance un peu à m'éparpiller, à en faire beaucoup, mais.
Tu fais des longues distances ?
Non, je fais jusqu'à 30 km. Et plutôt trail que course à pied bitume. Moi, je suis plus nature.
Et avant de conclure, si tu avais un rêve à réaliser, Vincent ?
Alors, j'en ai deux. J'ai un rêve à titre quand même professionnel, puisque, voilà, encore une fois, dans le monde entrepreneuriat, on se projette, on se fixe des objectifs, des ambitions. Un de mes rêves, quand même, serait d'arriver à atteindre ce projet de réseau. De réseau, de structure qui décarbone le dernier kilomètre. Et alors, j'en ai pas forcément trop parlé, mais que aussi tous ces métiers de livreur, de livraison, puisse prendre plus de poids. Et, comment dire, aujourd'hui, c'est des sociétés, il y a beaucoup de sociétés très, très éclatées, et qu'on arrive à avoir un réseau qui soit un peu plus fort, plus puissant, plus reconnu, que les livreurs soient plus mis en avant.
Très bien.
Et qu'on arrive aussi à décarboner. Donc voilà, cet aspect, ce projet, il me tient quand même à cœur. Ça fait quand même 6-7 ans que je suis dessus. Et donc ça serait c'est quand même un beau projet que j'ai envie de mener à son terme. Et à titre plus personnel, j'aime beaucoup la découverte, les voyages. J'espère que dans ma vie, j'aurai un moment pour prendre du temps pour mettre de côté un peu l'aspect professionnel et me consacrer sur quelque chose de professionnel avec ma famille, en mode découverte, voyage, et plutôt dans des pays pas forcément industrialisés.
Très nature, quoi.
Nature ou très différent de nos modèles occidentaux, notre façon de vivre. Ça serait mes deux. Si j'arrive à atteindre ça d'ici la fin de ma vie, ça serait top. Et je reprends aussi au niveau des valeurs une citation de collègues qui ont fait le tour du monde et qui avait comme citation celle de Saint-Exupéry: faites ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Et je trouve que on parlait de persévérance, je pense que si tout le monde se fixe ça, il y a beaucoup de rêves qui sont atteignables.
Génial. Tu conclues, Lucie?
Oui, alors pour conclure, je souhaiterais te demander quelles questions tu souhaiterais poser à notre prochain invité, qui est aussi un dirigeant engagé avec de belles valeurs. Il s'appelle Florent Leroy. Il est dirigeant du Fournil Bio, qui est un fabricant de pains bio artisanaux à base de levain naturel, tout ça dans le respect de l'environnement depuis 1995.
Alors, effectivement, ce que je disais à Florent, on se connaît déjà. Moi, je trouve ça top qu'il soit engagé sur la partie alimentation saine. Donc moi, mes questions, ça serait comment... je sais que tu le fais puisque tu m'as déjà sollicité, mais comment tu peux avoir un impact sur l'aspect environnemental au-delà de l'aspect purement alimentation. Et une deuxième question, comment tu vois ton expansion nationale et notamment au niveau logistique, sachant que aujourd'hui j'imagine que tu as il faudra faire une synthèse de ma question, tu as peut-être une unité de production, si tu es amené à livrer partout en France, comment tu peux organiser une logistique qui soit cohérente par rapport à un métier comme le tien où les marges aussi sont pas forcément très élevées. Voilà, ce seraient mes deux questions pour synthétiser.
Merci. Il répondra, Florent. Donc, merci beaucoup, Vincent, pour cet échange inspirant. Et puis,
à bientôt sur Airdevox.
Merci à vous.